Merci beaucoup Irina. Bonjour à tous. C'est une joie, un plaisir pour moi de vous retrouver. Et j'ai envie de vous dire ce matin, vous me manquez. Alors on a un super public, on s'améliore à chaque direct qu'on fait. Mais j'ai envie de vous dire ça ce matin, vous me manquez. De voir vos visages, de prêcher devant vous et de pouvoir être porté en fait dans ce temps de prédication. Alors, il y a un verset que Nirina a eu à cœur pour aujourd'hui. Et en fait, ce verset, quand j'étais en pleine préparation, est venu percuter mon cœur. Et c'est comme s'il venait dire d'une autre manière, par la bouche du prophète Ésaïe, ce que je voulais vous dire à travers l'image, enfin l'histoire de Bartimée, ce mendiant aveugle. Alors, je vais juste relire ces deux textes, Ésaïe 60, juste les trois premiers versets, et puis cette histoire de Bartimée. Ésaïe 60, « Lève-toi et brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Ça, c'est le texte que Ésaïe proclame, et « Se lève-toi » est adressé à Jérusalem. « Se lève-toi » est une parole du prophète pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une parole que l'Église peut pleinement s'approprier. C'est une parole pour nous en tant que chrétiens et pour nous en tant qu'Église. « Lève-toi ». Et si on voulait juste résumer ce message ce matin, ben c'est très simple, c'est deux mots. C'est « Lève-toi ». Lève-toi dans ta vie, là où tu en es. Et cette pensée ce matin qui était forte en moi, c'est impératif, c'est injonction. Ce grand désir que Dieu veut pour notre vie, c'est que nous soyons debout, c'est que nous puissions nous lever. Alors pour méditer cela, je voudrais vous prendre avec vous cette histoire de Bartimée. Bartimée, donc je vais lire en Marc 10 cette histoire, c'est Jésus qui se dirige vers Jérusalem. C'est Jésus qui a annoncé la bonne nouvelle, qui a annoncé le royaume de Dieu. Et puis, il est un peu sur la fin de son ministère. Et avant d'entrer à Jérusalem et de vivre la croix, eh bien, il passe par un village avec ses disciples. Ce village, c'est Jéricho. Et à Jéricho, et je vais lire là, Jésus sortit avec ses disciples et il y avait une assez grande foule. Et un mendiant, aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin où passait Jésus. Et puis, ce Bartimée, il entend que c'était Jésus de Nazareth, ce Jésus dont il a certainement entendu parler et entendu dire notamment qu'il était quelqu'un qui guérissait. Et alors, ce Bartimée, il se met à crier. Il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors, autour de lui, plusieurs se mettent à lui faire des reproches pour le faire taire. « Tu déranges le maître, mais qui es-tu pour crier de la sorte ?» Et ils essaient de le faire taire. Et là, Bartimée, plutôt que de se rasseoir, de rester dans son silence, il insiste et il crie une deuxième fois, et d'autant plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et là, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Le cri de Bartimée a pu arrêter Jésus, entouré d'une foule. Jésus faisait que passer, il allait à Jérusalem, il avait des choses importantes à faire, mais ce cri l'a arrêté. Et il dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Comme si ce n'était pas évident, mais Jésus a des choses tellement étonnantes et à ce moment-là, il permet à Bartimée de faire cette confession « Rabouni », c'est-à-dire « Mon maître, que je recouvre la vue. » Et là Jésus lui dit « Va, va. » Va, lève-toi. Tu étais assis, mais lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Et à ce moment-là, il recouvre la vue et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Cette histoire, je l'ai reçue dans mon cœur il y a plusieurs semaines et elle m'a vraiment fait réfléchir, elle m'a vraiment percuté. On a cette histoire d'abord d'un homme qui est aveugle, peut-être probablement aveugle de naissance. C'est-à-dire qu'il n'avait pas accès à la lumière, il n'avait pas accès à la beauté des choses, à ce monde si beau. Et puis comme ça ne suffisait pas d'être aveugle, la vie lui a rajouté d'être pauvre. En fait, les deux sont liés, quand on est aveugle, on ne peut pas faire grand-chose, mais il était pauvre, il devait mendier. Il devait demander et dépendre des autres pour pouvoir vivre. Pour pouvoir vivre. Et il ne pouvait pas avoir de projet comme les autres, il ne pouvait peut-être probablement pas avoir de famille comme les autres. Il était exclu de la société. Un homme bloqué dans sa vie, un homme qui ne pouvait faire rien d'autre que d'être assis sur le bord du chemin, sans perspective pour sa vie, sans avenir, sans espoir. Un homme qui devait se contenter de sa vie parce que, simplement, il était aveugle. Et ce qui est surprenant dans cette histoire d'une guérison, c'est que son nom nous est donné. En fait, c'est peut-être, alors je ne suis pas allé vérifier, mais c'est probablement la seule personne dans tous les évangiles que Jésus a guéri et dont le nom nous soit connu. Bartimée. Bartimée, le bar de Timée, c'est-à-dire le fils d'un homme qui s'appelait Timée, ou peut-être son grand-père, un parent. Timée, c'est l'honneur. Timée, c'est celui qui a été honoré. C'est certainement celui qui a dû réussir dans sa vie. Et je me disais, mais quel nom cruel qui lui rappelle son échec, qui lui rappelle la telle différence avec ses aînés. Bartimée. Et pour les gens de cette histoire, il était certainement personne. Le mendiant du coin, l'aveugle du coin, le gars pas très utile à la société, que la société doit pourvoir à ses besoins. Et d'ailleurs, les reproches que la foule lui fait quand il se met à crier vers Jésus montrent le bien peu de valeur que les gens lui accordaient. Ignoré du monde, ignoré des siens, mais pas ignoré de Dieu. Parce que Dieu a voulu que son nom puisse être loué, puisse être célébré, puisse être proclamé, prêché comme je le fais ce matin, des siècles plus tard. Bartimée. Si le nom de Bartimée est donné, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. C'est parce que Dieu a voulu, en mettant ce nom, que nous puissions le considérer, que nous puissions le regarder, regarder son histoire et peut-être nous retrouver en lui. Vous savez que quand on donne le nom à quelqu'un, c'est aussi pour lui donner une importance, pour lui redonner une place. Et je crois que c'est ce que Dieu faisait à travers simplement cette évocation de son nom dans cette histoire. Nous sommes, j'ai envie de dire, tous des Bartimées ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans notre vie où nous sommes peut-être comme lui, assis sur le chemin, assis sur le bord du chemin. Nous ne sommes pas en route. Il y a quelque chose en nous qui est comme arrêté. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas en action pour Dieu. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, vous dites, mais ça c'est toute ma vie. Et c'est comme toute ma vie, elle est juste figée dans une position, et là je suis assis, et puis comme mendiant, et puis je vis la vie que la vie m'a donnée, mais je ne demande pas plus parce que je vois bien que je ne peux pas avoir plus. Ou peut-être simplement, tu sens qu'il y a quelque chose en toi, oui, à bien des égards, tu es en action, tu vis, tu fais des choses, et tu fais des choses pour Dieu notamment, mais il y a des choses en toi encore dans l'ombre, où tu sens que ces choses sont comme arrêtées. Pourquoi les choses s'arrêtent dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain dont la joie est d'avancer, dont la joie est de marcher à la conquête dans la vie? Pourquoi les choses, qu'est-ce qui nous arrête comme ça? C'est pas naturel, c'est pas normal d'être en panne. Et j'ai rapproché cette histoire de Bartimée avec ce psaume 1, le premier verset, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Et ce premier verset montre une progression entre un homme qui marche sur le mauvais chemin et puis il se met à s'arrêter et puis il se met à s'asseoir. Et tout cela, c'est le péché. C'est la méchanceté, c'est le mal qui pousse à cet arrêt de l'homme qui était en marche. Et cette histoire de Bartimée, je me suis dit dans un sens, c'est le psaume 1 à l'envers. Vous savez, c'est le rewind, on rembobine le film, on le monte à l'envers. Parce que Bartimée, il est assis, et puis dans l'histoire, il se lève un moment. Et puis à la fin de l'histoire, il marche et il suit Jésus à Jérusalem. C'est l'inverse. Oui, c'est vrai que dans nos vies, ce qui nous arrête, et ce qui peut-être a arrêté, et aujourd'hui tu en prends conscience, des choses dans ta vie, dans le secret de ton cœur, c'est peut-être ce mal, cette méchanceté, ce péché que tu as peut-être fait ou peut-être que tu as subi. Mais il a ce pouvoir, le péché, d'arrêter, de bloquer, de mettre des verrous dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Et c'est la question que je voudrais nous poser ce matin. Et je le sens comme si c'était vraiment cette question qui vient du cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est assis en toi ce matin? Qu'est-ce qui ne peut pas se lever en toi ce matin? Vous savez, la cécité physique, l'aveuglement, c'est une image dans la Bible et aussi dans les évangiles pour l'aveuglement spirituel. Quelque chose que nous n'arrivons pas à capter de Dieu et qui fait que nous ne pouvons pas avancer et marcher comme les autres. Et puis la pauvreté matérielle, c'est aussi une image pour la pauvreté spirituelle. Et on voit Jésus qui rappelle cela dans l'Apocalypse. Et moi, j'ai envie de te dire ce matin, il y a tant de domaines où Dieu t'a béni. Il y a tant de domaines où Dieu veut te bénir. Il y a tant de domaines dans ta vie parce que c'est lui qui t'a créé. Il y a tant de merveilleuses choses, des graines, des semences qu'il a placées dans ta vie, des dons, des capacités, des projets qui sont dans ta vie, qui sont là, mais qui ne sont pas encore en marche, qui ne sont pas encore levés, mais que Dieu veut bénir et que Dieu veut décoincer ce matin. Parce que Dieu est celui qui nous a créés à son image. Donc par conséquent, il y a quelque chose d'extraordinaire dans chacune de nos vies. Que nous soyons ce matin croyants ou pas croyants, peut-être tu es là ce matin, tu découvres tout du christianisme, tu entends parler de Jésus, mais il y a quelque chose dans ta vie qui n'a... Tu ne te dis pas chrétien simplement, mais je veux te dire, ce message, c'est exactement le même. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a aimé, c'est Dieu qui t'a voulu. Il te connaît et il y a des choses précieuses dans ta vie parce qu'il est ton créateur. Il faut nous lever. Dieu nous appelle à nous lever. Et je vais avoir le plaisir, comme Nirina l'a annoncé tout à l'heure, d'accompagner des baptisés, 9 personnes à clé qui veulent se faire baptiser. Et j'ai envie de vous dire, à vous qui êtes là, vous reconnaissez les 9 et puis 4 autres personnes aussi à 7, vous êtes des personnes qui êtes en train de se lever. Vous êtes des personnes qui, par ce désir de prendre leur baptême, vous voulez signifier quelque chose, vous êtes en train de vous lever. Et c'est une bonne chose. Vous savez, cette histoire se passe à Jéricho. Et ce détail, on pourrait dire, ce n'est qu'un détail, mais il y a un symbole, je crois, ici. Jéricho, dans l'Ancien Testament, c'est la première ville dans la conquête de la terre promise. C'est la première ville que Josué et le peuple de Dieu vont rencontrer et vont devoir conquérir. Et il y a un combat qui se passe à Jéricho, et de ce combat va dépendre tout le reste, toute la conquête de la terre promise. Et dans un sens, on pourrait dire que Jésus, il passe par Jéricho pour aller à Jérusalem, là où il va accomplir le summum de son ministère, qui est la croix. Et c'est un peu la terre promise de Jésus. Alors, on pourrait se dire, bon, comme terre promise, c'est pas terrible pour Jésus, mais en fait, avec la croix, on sait que tout a été ouvert, tout a été rendu possible. Le pardon, la grâce, le royaume de Dieu, le paradis. C'est ça qui a été décoincé par Jésus à la croix. Et Jésus s'apprête à rentrer à Jérusalem. Et là, il croit ce Bartimée qui est bloqué à Jéricho. Et ce que Jésus va faire dans cette histoire, c'est qu'il va le faire se lever et l'aider à le suivre sur ce chemin vers Jérusalem et à entrer avec lui dans la terre promise. Ésaïe, ce verset qu'on a lu, je vais le relire encore parce qu'il est, je crois, vraiment au cœur de ce que Dieu veut nous dire ce matin. « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. » Se lever. Que fait Bartimée pour se lever? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la mécanique que nous montre ce passage? Eh bien, quand Jésus passe, encore loin, ce qui se passe, c'est que Bartimée sent en lui un désir, en fait, dans sa souffrance et dans sa peine, et il se met à crier. Et c'est un cri déchirant, c'est un cri qui contient des éléments de foi. « Fils de David », c'est un titre messianique, c'est-à-dire, en gros, il disait « Mais Jésus, tu es le Messie, et je le crois. Aie pitié de moi. » Jésus est entouré d'une grande foule, pas évident qu'il l'entende. Et Bartimée, lui, il ne pouvait pas s'approcher, se rapprocher, puisqu'il était aveugle. Alors il se met à crier. Et c'est ce cri qui fait basculer toute l'histoire. C'est avec ce cri que tout commence ou que tout recommence pour Bartimée. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. En fait, c'est simple. C'est toujours étonnant de constater à quel point, avec Dieu, les choses sont simples. Il crie, et ce qu'il dit est très simple. Jésus, je commence à croire en toi, j'ai entendu parler de toi, et je t'apporte mon désespoir. Ce cri dit à Jésus, tu es mon seul espoir, je n'ai plus que toi. Ce cri dit, je choisis de placer ma confiance en toi. Ce cri, en fait, est une prière. Ce cri montre même ce qu'est la vraie prière, j'ai envie de dire. Vous savez, nos prières, avec l'habitude, peuvent être vides, peuvent devenir vides, vides de confiance, vides de sincérité, vides d'amour. Et ce cri nous montre ce qu'est la vraie prière. C'est le cri du cœur. C'est la prière qui vient du fond du cœur. Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur. C'est du fond du cœur qu'est la vraie prière, que naît la vraie prière. Et cette prière-là déclenche dans cette histoire tout un processus. Et cet homme assis, mendiant depuis des années, va être un homme qui suit Jésus-Christ, un homme guéri, un homme qui voit et un homme qui suit Jésus dans sa terre promise. Et c'est le cri qui déclenche tout. Jésus était entouré d'une grande foule, certainement de beaucoup de bruit. Et un homme crie de désespoir. Un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie et des autres. Et il crie de désespoir. Et Jésus entend ce cri du cœur, étonnant. Et dans le texte parallèle en Matthieu 20, on voit que Jésus est saisi de compassion à ce moment-là. Et vous savez, la souffrance touche toujours Dieu. Dieu, celui qui nous a créés, celui qui se dit notre Père, qui est véritablement le Père, notre Père, celui qui a désiré, qui nous a vus dans le ventre de notre mère quand nous y étions, celui qui nous a tout donné, celui qui nous cherche, eh bien, il ne reste pas insensible à nos souffrances. Et quand notre cœur est touché, et quand nous l'exprimons à Dieu, le cœur de Dieu est touché. Et moi qui suis un papa, j'ai deux filles, je me rappelle ces moments dans leur enfance où par moments elles ont pu crier à moi, elles ont pu, vous savez, ces cris d'enfants parfois qui montrent une tristesse ou quand le cœur de nos enfants est touché, le cœur d'un père fond, il se brise, il ne peut pas, je ne pouvais pas rester indifférent à cela. Combien plus forte raison, Dieu le Père est comme cela. Et vous savez, le moment de plus grande souffrance pour le Fils, pour Jésus, c'était à la croix. Mais ça a été aussi, je crois, le moment de plus grande souffrance pour le Père, pour Dieu le Père. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle souffrance du Fils, mais quelle souffrance du Père. Et tous les deux ont accepté de vivre cela pour nous, pour toi et pour moi, pour que nous soyons pleinement réconciliés avec Dieu. Le cri du cœur est la clé de cette histoire. Le cri du cœur est la clé. Et vous pouvez voir dans cette histoire l'opposition immédiate que suscite ce cri. Cette opposition des gens autour de lui, des gens qui pensaient bien faire, des gens qui lui disaient « Mais ne dérange pas le maître, qui es-tu pour faire cela ?» Eh bien, plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Eh bien, Bartimée s'est mis à crier d'autant plus. Et vous pouvez voir dans cette histoire qu'il n'a pas fallu 10, 20 cris, 30 cris, 2 cris ont suffi. Et quand je pense à cette histoire qui se déroule à Jéricho, et dans l'Ancien Testament on voit que la prise de Jéricho, il a fallu que Josué et ses armées fassent 7 fois le tour de la ville et les remparts se sont effondrés. Crier 2 fois, tourner dans la ville 7 fois. Je crois que là, c'est une invitation pour nous à persévérer, à crier vers Dieu du sein même des choses où nous souffrons, du sein même des choses où nous avons besoin de son action, de crier, mais pas 10, 20 fois, quelques fois, mais de tout notre cœur. Et vous savez, quand on se met à crier une fois, il y a quelque chose qui bouge dans notre cœur, il y a quelque chose qui se brise et nous pouvons crier avec une autre force, avec encore une autre intensité, avec plus de cœur la deuxième fois et peut-être la troisième fois et encore. Et encore. Et je crois qu'à travers cette histoire, et là j'inverse les choses, c'est aussi comme si Dieu nous interpellait. Comme si nous aussi nous étions comme des Jésus. Nous sommes entourés d'une foule de distractions, mais Dieu crie vers nous parce qu'il veut nous communiquer son cœur. Il veut nous communiquer quelque chose et il crie vers nous. Et est-ce que nous voulons l'entendre ? Est-ce que nous serons comme Jésus capables d'entendre le cri du cœur de Dieu malgré la foule des distractions autour de nous ? Il faut que quelque chose se lève. Je crois dans ce texte d'Ésaïe qui a tant d'actualité, les textes des prophètes ont toujours beaucoup d'actualité, mais il parle de ténèbres qui recouvrent la terre. Il parle d'obscurité sur les hommes. Et nous le sommes, comme les siècles précédents, nous le sommes encore aujourd'hui, et nous le voyons peut-être encore plus fort avec les troubles que traversent nos sociétés. Et ce monde a besoin d'une église qui se lève. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes de Dieu, d'enfants, de jeunes qui se lèvent et qui brillent simplement parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu le fait à travers eux. Et pour ma part, dans ce temps de confinement, j'ai entendu Dieu me dire « Entre dans l'intercession. Deviens un homme qui entre dans l'intercession. » Et j'ai vraiment reçu cela clairement, qu'il fallait que j'augmente et que vraiment je prenne l'intercession beaucoup plus au corps à corps. Un appel de Dieu pour moi. Et pour moi, c'est un aspect de ma vie qui est en train de se lever. C'est un aspect de ma vie sur lequel le Saint-Esprit m'a parlé pendant le confinement et que je suis en train de faire lever en moi. Et j'ai l'occasion maintenant d'aller à 7, donc comme vous le savez tous, puisque vous avez entendu ces annonces et de vendredi soir, et si vous ne l'avez pas fait, ben je vous invite à le faire. Mais donc j'ai la joie d'aller à 7, et 7, bon, ben c'est à peu près 30 minutes de voiture. Eh bien, quand j'y vais du coup pas mal en ces derniers temps, je prends des temps de prière et des temps où mon cœur, je peux être, vous êtes dans une voiture, on peut prier comme on veut, personne qui vous entend, c'est bon quoi. Et vraiment, la dernière fois, c'était jeudi dernier, j'ai pris ce temps et... Alors, je ne suis pas quelqu'un, vous savez, où les émotions sont très à fleur de peau. J'ai des émotions, je suis normal, mais elles sont profondes, en fait. Elles sont profondes. Elles sont profondes. Mais là, j'étais sur l'autoroute ou la voie rapide et puis des larmes commençaient à monter en moi. Et des cris pour des personnes pour lesquelles je priais commençaient à monter en moi. Un cri de souffrance comme j'ai vécu il y a longtemps, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Et je me disais, mais si je me fais arrêter par la police, ils vont me prendre pour un fou. Le mec, il a plein de larmes et tout, les yeux tout rouges. Mais pour vous dire qu'il y a quelque chose en moi qui se lève et qui se levait à ce moment-là. Et c'était comme un cri, comme peut-être Dieu plaçait en moi le cri de plein de Bartimée en mon cœur. Ça, c'est l'intercession, on crie pour les autres, pour qu'ils se mettent à se lever et à crier à leur tour. Ça, c'est un exemple personnel de quelque chose qui se lève. Et je crois que Dieu nous appelle dans ces temps à ce que nous ne tolérions plus que des choses soient assises et restent assises. Et c'est vrai que même si nos vies sur plein d'aspects peuvent être top, que même si nos vies sur plein d'aspects peuvent être excellentes pour Dieu, mais peut-être il y a encore des... Et certainement il y a plein de choses encore dans ta vie qui sont assises et ce n'est pas juste. Et c'est le temps pour que ces choses se lèvent. Et je voudrais vraiment vous inviter et t'inviter ce matin. C'est prends un temps avec Dieu cette semaine. Et mets cette question devant Dieu, mets cette question dans ton cœur. Qu'est-ce qui a besoin de se lever ? Qu'est-ce qui a besoin de reprendre vie en moi ? Qu'est-ce qui a besoin d'être touché par Dieu pour lever et pour que Dieu brille à travers ma vie ? Et Bartimée qui prend conscience que Jésus s'est arrêté, et qui entend les gens autour de lui dire « Lève-toi, il t'appelle. » Ce Bartimée jette son manteau. Il se lève d'un bond. Vous savez, le manteau, pour un mendiant, c'est peut-être sa maison, sa dernière protection. C'est peut-être aussi une part de son identité, parce que quand on n'a pas grand-chose... Et d'avoir toujours le même manteau, les gens dans la rue devaient le reconnaître facilement avec son manteau. Jeter son manteau ici, c'est nous dire il y a quelque chose qu'il est en train de couper avec son ancienne vie, sa vie de mendiant, sa vie d'un homme qui n'est pas capable. Il est en train de faire un choix, Bartimée. Et quand il jette son manteau, eh bien, c'est pour montrer qu'il se débarrasse de certaines choses pour avancer. Et dans les choses que Dieu te montre en ce moment et va te montrer cette semaine, jette ton manteau. Jette ces manteaux qui peut-être t'attachent à une vie du passé, à une vie de mendiant, à une vie d'aveugle. Et fais ces choix qui vont te permettre de te lever. Et il se lève d'un bond. Il se lève d'un bond. Et je dirais, en fait, c'est le miracle premier de cette histoire. C'est le miracle avant le miracle, où il recouvre la vue. Il se lève alors qu'il était assis depuis des années. Il se lève. Et qu'est-ce qui lui a donné ce désir si fort? Et je peux affirmer sans me tromper que ça ne vient pas de Bartimée, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas une force qui soudain il a trouvée en lui pour se lever et se mettre à se bouger dans sa vie. C'est une force qui vient de Dieu. Il l'aurait fait bien avant sinon, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est le fait que Jésus l'ait appelé. C'est le fait que Jésus l'ait appelé personnellement. C'est le fait que Bartimée a compris que Dieu, que le Créateur de toutes choses, s'intéressait à lui personnellement. Exactement comme pour toi et comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous. Dieu nous parle, mais il nous parle aussi à chacun. Il te parle à toi. Il t'appelle pour que tu viennes à lui, pour que tu retrouves du sens dans tous les aspects de ta vie. Ce passage d'Ésaïe nous dit « Mais sur toi, l'Éternel se lève. » Et en fait, ça montre que pour que le peuple de Dieu se lève, il faut que Dieu se lève sur son peuple. Et c'est ce que Jésus a fait quand il est comparé dans ce passage et dans d'autres à ce soleil qui se lève, vous savez, et qui monte irrésistiblement dans le ciel pour aller au zénith. Dieu se lève, et quand Jésus-Christ est venu, c'est ce qu'il a dit, « Je me lève sur l'humanité, je me lève sur ta vie. » Et c'est le fait que Dieu se lève sur ta vie qui te rend capable de te lever à ton tour. Et c'est exactement cette mécanique qui se trouve dans ce passage d'Ésaïe. C'est que le fait que Dieu se lève, alors la conséquence est « Mon peuple, lève-toi et brille !» parce que Dieu se lève sur toi. Et Dieu se lève sur toi, c'est quand Dieu vient, Dieu te visite, Dieu commence à te parler, tu commences à entendre sa voix, et il y a un courage qui revient en toi. Il y a une foi qui commence à naître en toi. Il y a quelque chose qui n'était pas de toi, qui commence à venir et à naître, et à te donner ce grand désir de te lever. Dimanche dernier, c'était la Pentecôte. C'est ça. On s'y perd, hein. Et qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est donné à l'Église pour qu'elle se lève. C'est le Saint-Esprit qui est la force, qui est la puissance de Dieu, qui vient dans la vie des êtres humains, qui vient dans la vie du corps de Dieu, du corps de Christ, pour que celui-ci se lève, reprenne vie, ressuscite comme Jésus et puisse être ce peuple qui brille. Peut-être que dans ta vie, il y a des ténèbres, comme le dit ce texte d'Ésaïe, ces ténèbres qui couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. Mais Dieu veut se lever sur ta vie. Dieu veut être ce soleil qui monte. Dieu veut être et veut te donner d'entendre cette voix. Il t'appelle comme il a appelé Bartimée, pas comme il appellerait l'ensemble d'une foule. Il t'appelle toi par ton prénom, Bartimée, ton prénom, quel qu'il soit. Et la suite de l'histoire, et je vais conclure avec ça, c'est que Bartimée, du coup, commence à avoir comme une relation avec Dieu, avec Jésus. Il se lève et puis il est face à face avec Jésus. Et là, Jésus lui demande « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Jésus savait, bien sûr, ce qu'il avait besoin. Il savait pourquoi son cœur souffrait. Mais Jésus lui demande de l'exprimer. Et dans cette expression, eh bien, Bartimée peut dire avec des mots, dans un cœur à cœur, ce qu'il a besoin. Et Jésus simplement l'exauce. Et là, c'est le miracle. Il recouvre la vue et il se met à suivre Jésus-Christ. Et je crois que c'est exactement ce processus que nous soyons chrétiens, que nous allions bien, ou que nous soyons dans une difficulté particulière, ou peut-être que nous ne soyons pas croyants ce matin, mais peut-être que vous vous reconnaissez dans ce Bartimée, assis sur le bord du chemin, comme paralysé, et vous sentez ce poids d'obscurité sur votre vie. Vous sentez que les ténèbres ont encore un peu de terrain dans votre vie. Et je voudrais vraiment vous inviter à vous placer devant Dieu. Et que vous le connaissiez ou pas, vous pouvez le faire. Et de crier à lui de tout votre cœur. Peut-être dans un silence, peut-être de vive voix, mais de crier avec votre cœur. Que ce soit cette prière du cœur. Et cette histoire affirme, montre que Dieu entend, que Dieu n'est pas insensible, mais que Dieu, au contraire, est celui qui vous aime tellement qu'il vous répond. Il est touché par votre souffrance, il est touché, il voit exactement ce que vous vivez et il veut vous répondre. Et ce cri va déclencher un processus dans lequel vous allez progresser. Ce cri va entamer quelque chose dans votre vie. Et peut-être qu'un cri, deux cris, peut-être jusqu'à sept cris, mais à un moment, les remparts, ces remparts qui vous maintiennent assis vont s'effondrer. Et vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Et je l'affirme parce que je crois que cette histoire de Bartimée, c'est ce qu'elle veut dire au peuple de Dieu, quel qu'il soit. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour donner un petit salut, pour donner une portion de salut. Pour certains, un grand salut, et puis pour d'autres, juste 15-20%. Et contente-toi de cela. Non, Jésus-Christ est venu pour une libération totale, pour une vérité totale dans ta vie, pour qu'il y ait quelque chose d'entier qui se fasse, pour que tu puisses vivre pleinement la vie et la vie en abondance. Et je voudrais prier pour vous ce matin. Et peut-être que tu t'es reconnu, tu t'es dit, mais c'est toute ma vie qui est assise. Et peut-être que ce matin, tu dis, j'ai envie de marcher avec ce Jésus. J'ai envie, moi aussi, de me lever et de le suivre, de devenir chrétien. Et je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Si tu veux cela. C'est tout simple. Seigneur, merci parce que tu nous appelles. Et Seigneur Jésus, j'entends ton cri ce matin. J'entends ton appel. Et je désire y répondre. Tu es celui qui est capable de mettre en moi une force pour me lever, pour que je quitte cette position de mendiant et que je puisse être cet homme qui te suit, qui marche, qui recouvre la vue et où toutes les choses merveilleuses que tu as placées dans ma vie peuvent renaître, peuvent être restaurées, peuvent être rétablies et peuvent même en donner d'autres encore que je ne soupçonne pas. Seigneur Jésus, ce matin, je désire placer ma vie entre tes mains. Je me donne à toi et je choisis de te faire confiance. Je te suis. Et je voudrais aussi prier pour vous qui connaissez, qui marchez avec Dieu, qui marchez avec Jésus. Je voudrais prier pour toi, Église, parce que Dieu t'appelle à te lever. Et qu'il y a tant de choses en toi encore, magnifiques et merveilleuses, que Dieu appelle à se lever maintenant, parce que c'est une période, c'est une saison. Saint-Esprit, merci parce que tu es le même, parce que tu es cette puissance qui nous a été donnée à la Pentecôte. Saint-Esprit, merci pour cette puissance que tu sais déverser dans nos vies. Et je te prie, souffle sur l'Église, souffle sur mes frères et sœurs, souffle sur nous. Et comme pour moi, tu fais lever une intercession, je prie que pour d'autres, ce soit d'autres choses. Mais que Seigneur, il y ait de la puissance dans nos vies. Et la puissance, c'est que ces choses qui aujourd'hui dorment, cessent de dormir et se réveillent au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, ces choses qui sont assises encore dans nos vies puissent se lever. Et que nous puissions être une église en marche. Nous puissions être des chrétiens en marche. Nous puissions être des chrétiens qui ne se laissent pas abattre. Qui ne se laissent pas impressionner par les murailles de Jéricho. Parce que l'ennemi, le mal, le péché, toutes les choses ont pu écraser dans nos vies. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces remparts se brisent maintenant et que nos vies reçoivent ce souffle de Dieu, ce souffle de vie, ce souffle créateur, ce souffle qui amène et qui libère toutes les choses excellentes dans nos vies. Nous sommes des parfums pour Christ, pas moins que cela. Nous sommes des êtres merveilleux et magnifiques. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire en toi et que Dieu veut que se lève ce matin. Lève-toi, Église, et brille de la lumière de Jésus-Christ, de la lumière de son cœur en toi. Lève-toi et brille. C'est l'appel de Dieu ce matin. Et c'est son œuvre par le Saint-Esprit qu'il est en train de faire.